Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au combat.
Bonjour.
Bonsoir.
Et
c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
C'était joli. Enfin, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, après des petites brèves,
que se passe-t-il avec Édouard Philippe ?
Ensuite, élection municipale en Turquie.
Le pass illimité n'aura pas lieu, c'est une histoire de SNCF ?
Une histoire de train.
Une histoire de train.
Crime de guerre, le cœur brisé de la Maison Blanche.
Et puis chronique cannabis, deux salles, deux ambiances. Mais d'abord, quelques brèves.
Pardon, la nappe de brèves, c'est trois.
Alors ça y est, Le Pen, le daron, est officiellement gâteux. Il est sous un truc qui s'appelle protection juridique, en gros sous tutelle, et ça depuis le mois de février. Et pauvre vieux, c'est ses filles qui ont le droit de prendre cette décision à sa place, ses filles donc, de filles Marine. Voilà, en vrai, on s'en fout. On est juste un peu deg qu'à 95 ans, il soit toujours de ce monde.
Ouais, mais il paraît qu'il souffre un peu quand même.
Ouais, bah ouais.
Ça rattrape.
On espère, mais.
Je sais pas moi.
On va rattraper comme on peut. Bon, écoutez ce titre. Grippe aviaire. Grippe aviaire. Donc on comprend bien ce que ça veut dire. Aviaire, ça veut dire des oiseaux. Hein. Grippe aviaire, aux États-Unis, un humain infecté par un bovin. En vérité, je vous le dis, quand les vaches et les hommes sont des oiseaux, la fin du monde est proche.
On s'en souviendra quand ce sera la prochaine pandémie mondiale de ta blague.
Youpi, une bonne nouvelle, une vraie, les émissions de gaz à effet de serre en France ont réellement baissé de 4,8% en 2023 par rapport à 2022. Alors ne nous laissons pas gâcher la joie par les écolos qui disent que c'est parce que les pauvres ont plus de sous pour remplir leurs réservoirs et que la précarité n'est pas la sobriété. Par ceux qui disent que les voitures électriques émettent beaucoup de gaz à effet de serre là où elles sont construites. Mais comme c'est pas en France, c'est pas compté, même quand elles roulent ici. Par ceux qui disent qu'il y a de plus en plus d'avions et que le gouvernement fait tout pour les multiplier, alors qu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'ils pollueraient moins dans les années qui viennent. Ou que si le gouvernement a annoncé il y a un an investir massivement dans le train, en réalité pour l'instant, tout le fric qui sort va dans la construction de routes et d'autoroutes.
Radio Canu.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors notre prochain président de la République, il dort en prison ce soir.
Canu Info.
Alors, pardon. Alors, notre prochain président de la République. Non, puis alors en plus, en vrai, ça n'a pas l'air si bien que ce que tu m'as promis au début. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire visant le maire du Havre, Édouard Philippe, et son adjointe pour prise illégale d'intérêt. Détournement de fonds publics, favoritisme, harcèlement moral. Cette enquête fait suite à une plainte déposée par une collaboratrice de la mairie en septembre 2023, après que son contrat n'ait pas été renouvelé. Du coup, elle n'était pas très contente. Du coup, elle a balancé les dossiers. Faites ça tous
à chaque fois que vous travaillez pour
quand vous travaillez de horizon. Mais même pour n'importe qui, en général, il y a toujours des trucs à dénoncer. Bah, n'hésitez pas à dénoncer les trucs. Comme ça, nous, après, ça nous fait des infos rigolotes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, la communauté urbaine du Havre, donc que préside Édouard Philippe en tant que maire du Havre, avait... Oui, parce que les petites villes, ça marche comme ça, il n'y a pas comme nous un double système avec un maire et tout ça, c'est la même personne. Ils avaient chargé l'association LH French Tech, me demandez pas pourquoi LH, mais en tout cas LH French Tech, d'animer pendant 4 ans la cité du numérique au Havre. C'est un espace pour faire naître et grandir des projets selon les mots de l'intercommunauté. Pardon. Et petit problème, c'est que l'association à qui ils ont confié la gestion du truc, la cité du numérique au Havre, était gérée par l'adjointe au maire en question, là, qui est poursuivie avec Édouard Philippe. Alors, il s'appelle... ça ne s'invente pas. Stéphanie de Basler, et elle est conseillère communautaire et adjointe au maire, et aussi présidente de l'association qui gérait cet espace-là, et donc qui s'est fait sûrement plein d'argent public grâce à cette gestion. Donc, ce qui justifie qu'on considère que c'était un prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, favoritisme et alors harcèlement moral, j'imagine que c'est plutôt sur la rupture du contrat que ça s'est fait. Mais donc tous ces trois points, c'est parce que en gros, cette attribution de gestion à l'association, elle a été faite hors des procédures d'attribution des marchés publics et donc ils se sont juste arrangés entre eux. Sur un coin de table en disant on n'a qu'à dire que c'est toi qui gères et puis du coup ça ira bien et puis tiens 4 millions d'euros j'imagine, je sais pas combien ça fait ce genre de truc, mais enfin voilà.
Canu Info.
Alors dimanche dernier ont eu lieu les élections municipales en Turquie. Erdogan, le président autocrate qui visait la conquête d'Istanbul et la victoire générale, a subi une défaite cuisante et historique. La mairie d'Istanbul est de nouveau gagnée par le candidat du CHP, Parti Républicain du Peuple, qui correspond un peu au Parti Socialiste de chez nous. Alors cependant, si ce parti est moins pire que l'AKP d'Erdogan, il faut quand même se rappeler qu'il a été créé par Mustafa Kemal, responsable de nombreux massacres de Kurdes. Ce parti drague généralement les électeurs kurdes, mais n'hésite jamais à se rallier à l'AKP d'Erdogan quand il faut destituer les élus kurdes ou autres du parti HDP ou DEM, quand il faut ou à se rallier encore à l'AKP quand il faut faire la guerre contre les Kurdes du Rojava en Syrie ou du PKK en Turquie et en Irak. Alors pour faire une petite précision sur ces résultats électoraux qui sont, comme je disais, historiques et une petite vue d'ensemble. Alors en termes de voix cumulées, le CHP arrive en tête avec 8 300 000 voix. Contre 8 100 000 pour l'AKP. Le parti d'extrême gauche, qui pour simplifier pourrait correspondre un peu au NPA de chez nous, arrive en troisième avec 1 300 000 voix. Quant au MHP, le parti fasciste des loups gris allié avec l'AKP, celui-ci obtient 800 000 voix. Alors la plupart des grandes villes de l'Ouest, Istanbul, Ankara, Izmir, ont été gagnées par le CHP. Et la plupart des villes d'Anatolie, centre du pays, ont été gagnées sans surprise par l'AKP. Et la plupart des grandes villes de l'Est, à majorité kurde, ont été gagnées par le parti DEM, donc le parti d'extrême gauche. Suite à cette défaite écrasante de l'AKP, qui comptait récupérer les grandes villes de l'Ouest et notamment Istanbul, le président autocrate Erdogan déclarait qu'il s'agissait d'une victoire de la démocratie, que le peuple avait parlé et qu'il comptait bien respecter cette volonté souveraine et sacrée. Déclaration immédiatement saluée par l'Union européenne, qui y a vu un retour vers la démocratie du président Erdogan et s'est réjoui de la bonne tenue de ces élections.
C'est bien.
Mais alors, que s'est-il passé à Van, grande ville à majorité kurde située dans l'est de la Turquie, près de la frontière irakienne ? Abdullah Zeidan, qui se présentait pour le parti DEM, parti de la démocratie et de l'égalité des peuples, a subi une procédure de destitution lancée 2 jours avant le début de l'élection et a été déclaré inéligible juste après sa victoire avec un score de 55%. Il a donc immédiatement été remplacé par le candidat arrivé deuxième avec 27% des voix. Et il se trouve que ce candidat est le candidat AKP, parti d'Erdogan, au pouvoir en Turquie. Bon, bah, depuis d'énormes manifs avec répression qui va avec, mais c'est des manifs extrêmement massifs où tout le monde sort dans la rue. Alors, cocktail Molotov pour les manifestants, balles en caoutchouc et lacrymogène pour la police qui tabasse toute la population, voilà. Donc ça, c'est à Vannes. Mais, alors aussi, que se passe-t-il à Siirt, autre grande ville majorité kurde à l'est du pays ? Eh bien, pareil, d'énormes manifestations massives, parce qu'il se trouve qu'à Siirt, le jour de l'élection, on a vu débarquer un énorme contingent de soldats en uniforme et de policiers en uniforme, et qui sont tous allés voter. Voilà, alors depuis, la population continue effectivement à faire des manifs, du coup, comme à Vannes. Alors voilà, donc ça c'est pour l'histoire de la tenue et de la démocratie, mais il y a quand même une petite conclusion qu'on peut faire sur ces résultats, qui n'est pas forcément bonne, malgré le fait que effectivement ce soit une défaite pour Erdogan. C'est qu'en général, quand Erdogan perd des élections, sa technique pour regagner des voix et recentrer le pays derrière lui, c'est d'attaquer les Kurdes, parce que le racisme kurde, qui est extrêmement fort dans la population générale, fait que la majorité du peuple se rallie à lui. Donc on craint pour les Kurdes bientôt, notamment au Rojava, et on craint aussi pour les Kurdes du PKK, dont les bases se trouvent dans la montagne, dans les montagnes d'Irak, proche de la frontière turque. Et d'ailleurs, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un ralliement historique de l'Irak et de l'Iran avec la Turquie pour combattre les Kurdes du PKK et du Rojava. Donc les Kurdes s'attendent à une attaque bientôt, très récemment. Donc voilà, il faudra faire attention à ça.
Et on va faire une petite interlude musicale.
Dans la chasse, patriarcat, les connards, des cibles. Mobilisation ignorante, des écoles, vous dire.
Canu Info.
Et du coup, on va parler SNCF un peu. Alors attendez, hop, comme ça, on va parler SNCF. Je teste, c'est bon, vous m'entendez.
T'avais préparé un petit bruit de train, c'est pour ça?
Non. Non, je peux te faire un bruit de train à la bouche si je veux. Non, je testais que le son. Enfin bon, pardon. Donc, le billet de train n'aura pas lieu. Alors, comme souvent avec notre gouvernement, l'histoire tire sa source dans un savant mélange d'incompétence, de flou artistique et de pingrerie de droite, mais répartie dans plein de gens différents, vous allez voir. Alors, le gouvernement avait annoncé la mise en place d'un passe-rail illimité. Alors, pour les jeunes, mais on en parlera plus tard, pour les jeunes dès l'été prochain. Pour 49 euros par mois, les jeunes de moins de 27 ans auraient dû pouvoir prendre les lignes TER et intercités en illimité. Bon, alors, on peut déjà noter que au premier moment de l'annonce, en septembre, c'est tout le monde qui devait pouvoir bénéficier de ce pass, mais sans qu'on comprenne trop ce qui se passe, ou du moins à quel moment ça s'est passé, il y a un truc qui a rétréci au lavage, et le gouvernement a travaillé finalement sur un pass jeune. Alors, le pass jeune, de toute façon, c'est le thème de la chronique, il ne verra pas le jour. Il ne verra pas le jour, puisque c'est une compétence des présidents de région. Alors, si je ne me trompe pas, c'est les... ça doit être les TER qui sont des présidents de région et les intercités qui sont une compétence du gouvernement. En tout cas, le gouvernement s'est avancé sur un truc qui ne le concernait pas. Mais on pourrait se dire, à la rigueur, ça a déjà existé là, les années précédentes, des passes un peu comme ça, mis en place par les présidents de région. Donc peut-être qu'ils auraient pu s'arranger. Mais du coup, il y en a trois d'entre eux. Vous allez voir, il y a un rapport entre les trois d'entre eux qui tirent la gueule et ont refusé de signer l'accord. Et donc, les trois d'entre eux, c'est Xavier Bertrand, Hauts-de-France. Hervé Morin, alors lui, plus personne sait qui c'est, mais c'est un type de l'UDI, donc du parti de François Bayrou.
Ouais, il avait été ministre, lui, Hervé Morin.
Oh, sûrement.
Ah oui.
Ministre dispensable encore. Tu te souviens de quoi?
Alors, je me souviens plus de quoi. Je me demande si c'était pas, je sais pas, un truc quand même costaud. Hein.
Voilà.
Je me demande si c'était pas Affaires étrangères. Ou...
Bon, bah, Hervé Morin, ministre d'un truc de l'UDI. Et le dernier, c'est un qu'on a l'habitude de voir, c'est Laurent Wauquiez. Alors, eux, ils disent, non, mais c'est pas ça, on n'est pas contre, mais en fait, vous comprenez... Et donc, c'est là que ça soulève un loup. En fait, vous comprenez, le pass, il n'aurait pas pu marcher pour la région parisienne. Ça n'aurait il n'y aurait pas la région parisienne dedans. Voilà, concerné, merci, c'était ça que je cherchais. Donc quand on connaît un peu l'organisation du rail en France, ou de tout en France en fait finalement, exclure d'un plan de circulation la région parisienne, on peut se dire que c'est complètement con, parce que du coup en fait, aller d'un point A à un point B en France, ça nécessite souvent de passer par la région parisienne. Et donc là, les gens auraient dû payer. Alors vous allez me dire, bon, avec les intercités et les TER, tu peux toujours te débrouiller pour passer d'une sous-région à une sous-région. Enfin bon. Et donc en tout cas, c'est le prétexte que nos trois types de la droite qui essayent de prouver que c'est eux la droite la plus dure ont choisi pour ne pas accepter ce plan de mise en place d'un pass inter-rail, intercité, je sais pas comment faut l'appeler.
Canu Info. Oh, oh. Du mercredi.
Pardon, désolé d'intervenir, mais c'est quand même pour repréciser pour Hervé Morin, il était ministre de la Défense sous Sarkozy, avec Premier ministre Fillon, pendant au moins 3 ans et demi.
S'il pèse dans le game, le gars.
Ah ouais, quand même.
Ah ouais.
Bon, écoutez, l'info est pas toute fraîche, mais je voudrais revenir un petit peu dessus. Quand même, l'armée israélienne a fait un vrai gros sale truc lundi, un truc vraiment, vraiment moche. Elle a brisé le cœur de la Maison Blanche. Alors, vous allez me dire, une maison, ça n'a pas de cœur, mais bon, je vous donne l'info telle qu'elle nous est parvenue. La Maison Blanche a affirmé lundi avoir le cœur brisé après la mort dans la bande de Gaza de plusieurs travailleurs de l'organisation humanitaire américaine World Central Kitchen, tué par une frappe israélienne. C'est ce qu'a déclaré sur le réseau social X, ex-Twitter, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale américaine, Adrienne Watson. Alors si jamais vous avez tout loupé, si vous n'avez pas eu la moindre info depuis lundi, je vais faire un résumé rapidos. Lundi, 7 travailleurs humanitaires, dont 6 qui n'étaient pas palestiniens, mais de plusieurs nationalités différentes, et même de pays où les gens sont massivement blancs, chrétiens et riches,
ont été réduits en bouillie par des missiles israéliens dans la bande de Gaza. C'est cette personne travaillait pour l'ONG World Central Kitchen, qui est un gros truc américain et qui travaille en très proche collaboration avec le gouvernement américain et jusque-là avec le gouvernement israélien. C'est surtout eux qui arrivent à faire rentrer un petit peu de bouffe à Gaza et c'est sur eux essentiellement que le gouvernement américain comptait pour son espèce de plan d'apporter de l'aide alimentaire par bateau, bon, un jour dans les mois qui viennent. Et du coup, sans que l'idée de l'amener par bateau, c'était sans que l'armée israélienne puisse contrôler et surtout limiter les chargements comme elle le fait avec les camions. Mais ce qui s'est passé lundi, c'est surtout la première fois que des humanitaires étrangers, même pas binationaux, franco-palestiniens, je sais pas, anglo-palestiniens, américano-palestiniens, là, purement étrangers, c'est la première fois que des humanitaires étrangers donc sont tués. Et tout ça, juste quelques jours après que l'ONU ait officiellement ordonné à Israël, d'une part de mettre en place un cessez-le-feu immédiat, et d'autre part de prendre toutes les mesures pour faire cesser la famine à Gaza. Alors voilà, ça fait moche, et le monde entier s'étouffe d'indignation. Les Américains, donc, en premier, donc le cœur de la Maison Blanche brisée, tout ça, et puis aussi Anthony Blinken, qui était à Paris, et là, son sang n'a fait qu'un tour. Et qu'est-ce qu'il a déclaré devant un micro ? Nous avons parlé directement aux autorités israéliennes, nous les avons exhortés à mener une enquête rapide et impartiale pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Nous avons fait comprendre aux Israéliens qu'il fallait faire plus pour protéger les vies civiles innocentes, qu'il s'agisse d'enfants palestiniens innocents ou de travailleurs humanitaires. Alors, je sais pas bien comment il l'aura fait comprendre tout ça, mais sans doute pas hyper clairement quand même, parce que dans la foulée, Israël a de nouveau attaqué l'hôpital Al-Shifa, qui n'avait pas été totalement détruit lors du premier passage de l'armée israélienne. Alors, les milliers de civils qui étaient réfugiés ont été poliment priés de déguerpir à coups de pied au cul. Les malades aussi, ma foi, quel que soit leur état, bien sûr. L'armée israélienne se vante d'avoir tué 200 militants du Hamas. En tout cas, sûr qu'ils ont tué au moins largement 200 personnes. Et d'après le directeur de l'OMS, je cite, cette fois, 21 patients sont morts durant le siège de l'hôpital. 107 patients sont logés dans un bâtiment inapproprié, privé du matériel nécessaire, ne disposant que d'une bouteille d'eau pour 15 personnes. Enfin, malgré tout, la colère américaine, attention pas que américaine, française aussi, hein, Stéphane Séjourné, vous savez pas qui c'est, mais c'est notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné n'a pas hésité à condamner fermement le BINS, et il a même ajouté « La protection des humanitaires est un impératif moral et juridique auquel tout le monde doit se tenir. » Pas dans ta gueule, Netanyahou. La réprobation internationale, donc, a bien fait peur au Premier ministre israélien. Sur ce coup-là, il ne revendique pas, il est tout penaud, il l'a dit, l'armée israélienne a frappé des innocents de manière non intentionnelle, avant d'ajouter, ça peut arriver pendant une guerre, bon voilà, c'est con, désolé, on fait ce qu'on peut. Le chef d'état-major israélien a dit ce matin que son armée avait commis une grave erreur, qui a suivi une mauvaise identification de nuit pendant une guerre, dans des conditions très complexes. Cela n'aurait pas dû se produire. Voilà, ils sont désolés. Alors c'est vrai que aussi à leur décharge, c'est pas toujours facile de différencier un humanitaire américain ou polonais, australien, british, d'un féroce bébé palestinien militant du Hamas. Bref, à la fin, tout le monde dit ce qu'on s'attend à ce qu'ils disent. Biden en particulier, qui, alors Biden, bien sûr, est dans une position où il doit absolument montrer partout son fameux cœur hyper brisé, parce que une part de plus en plus importante de son électorat, et il y a des élections qui s'approchent, perd l'envie de voter pour un vieux con gâteux qui soutient Mordicus à un énorme crime de guerre. Alors, si rien ne semble pouvoir le décider, malgré tout, à arrêter le soutien financier ou les fournitures d'armes, par contre, en parole, et y compris un tout petit peu diplomatiquement, il se distancie de plus en plus du massacre à Gaza, en faisant semblant d'oublier qu'il pourrait le stopper en quelques heures, sans doute, s'il bloquait les flux de pognon et d'armes vers Israël. Mais surtout, personne ne peut sérieusement croire ce que disent Netanyahou, son chef d'état-major, le porte-parole de l'armée, bref, toute la communication officielle israélienne. Les 7 humanitaires ont été frappés dans 3 voitures par 3 missiles différents. Ils avaient prévenu l'armée israélienne de leur déplacement, précisément. La frappe a eu lieu dans une zone sans combat et leurs 3 véhicules portaient en gros le logo de World Central Kitchen.
Leur mort ne peut vraiment juste pas du tout être un accident dû à une méprise tragique. On peut pas du tout savoir à quel niveau du commandement la décision a été prise, mais c'est bien leur voiture qui était visée. Alors on peut assez facilement envisager que l'armée ou le gouvernement israélien ou quelqu'un dans l'armée ou dans le gouvernement à un échelon quelconque a décidé de montrer au monde que le Conseil de sécurité de l'ONU pouvait bien se carrer ces résolutions là où je pense, et que le gouvernement israélien est bien le seul à décider si les Gazaouis peuvent manger ou non, et bon, en l'occurrence c'est non. Tout le monde le sait. Pratiquement tout le monde condamne ce qui s'est passé, mais personne dans les gens qui ont du pouvoir ne va loin au-delà de la condamnation. Le ton se durcit malgré tout, lentement, bon, assez lentement pour qu'on puisse attendre tranquillement que Gaza soit vide de Palestiniens avant que Biden ou Macron ne se décident à prendre quelque chose qui ressemblerait à des sanctions. Voilà, la manif, et ben c'est encore samedi, encore à 15h, place des Terreaux.
Canu Info. Du mercredi.
Et donc on va continuer avec... Tiens, on m'entend pas, pourquoi on m'entend pas?
Oui, on t'entend pas. Pourquoi on t'entend pas?
Pourtant, le micro il est branché.
Ah là, il y a un faux contact sur le potard du micro de la régie. Ah bah, la commission technique, si vous nous entendez, potard du micro de la régie.
Non, là, des commissions techniques, comme vous nous entendez, j'espère bien qu'ils nous écoutent, hein,
ah,
la commission technique.
Ah oui, c'est ça que tu veux dire. Bien sûr, certainement.
J'espère qu'on aura la commission technique à la fin de l'émission. Enfin bon, chronique deux salles, deux ambiances. Alors, l'Allemagne légalisait le cannabis le 1er avril pour les plus de 18 ans. Elle s'inspire du modèle canadien. Je vous expliquerai une autre fois, promis, et pas promis comme certains autres qui promettent des trucs sur les routes de la soie et qui en font jamais. Mais d'abord, il faut que je me tape les rapports qui sont sortis récemment sur les résultats de la légalisation du cannabis au Canada. Et après, promis, je vous fais un truc là-dessus. C'est une stratégie qui vise plutôt un maintien entre le nombre de consommateurs, donc éviter qu'il explose trop, et en même temps, essayer de diminuer un maximum le trafic. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, au Québec, et c'est là que vous allez voir, il faudra que je rentre dans les détails, où là, ils visent plutôt uniquement le maintien du nombre de consommateurs, et ils ont dit, on s'en fout s'il y a des trafics qui se maintiennent, c'est pas notre problème, juste on veut qu'il y ait le moins de consommateurs possible. Bon, du coup, eux, ils sont plutôt, les Allemands, sur une politique de équilibre et d'essayer de viser en parallèle les deux objectifs, donc pas trop d'explosion du nombre de consommateurs et diminution du nombre de trafiquants. Les adultes sont donc autorisés dans cette optique à posséder jusqu'à 50 grammes de cannabis et à se déplacer avec sur eux jusqu'à 25 grammes, ce qui devrait permettre aux plus gros fumeurs de pouvoir gérer leur addiction tranquillement. Pour ceux qui ne voient pas, ça fait quand même un paquet de pétards, même 25 grammes. Qu'est-ce que j'ai dit ? Le gros fumeur de gérer leur addiction. Voilà. Il faudra attendre début juillet, par contre, pour pouvoir acheter légalement du cannabis. Ça sera obligatoirement dans ce qu'ils appellent des cannabis social club. Je sais pas pourquoi, alors que c'est de l'allemand, ils devraient l'appeler.
Oui, mais très joli nom quand même.
Le cannabis social club. Ouais, c'était déjà un truc en Espagne, je crois. Enfin bon, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça du coup que le nom est pas en allemand et que c'est pas cannabis. Enfin, bon.
Oui, c'est très espagnol, cannabis social club.
Ouais. Hein, tu trouves moi aussi? L'idée, c'est que c'est des associations à but non lucratif qui pourront cultiver et vendre du chanvre à leurs adhérents seulement. Donc dans une limite de 25 grammes par jour et de 50 grammes par mois. Chaque association pourra accueillir, donc via cotisation, au maximum 500 adhérents. Et ces adhérents devront résider plus de 6 mois en Allemagne. Ça, c'est pour éviter le côté tourisme cannabique. Des dispositions particulières s'appliquent aux 18-21 ans qui eux n'auront que 30 grammes par mois et un taux de THC maximum, donc le principe actif du cannabis, de 10%. De l'autre côté du Rhin, donc en fait chez nous, si vous avez bien suivi, parce qu'on était en Allemagne, hop, on revient. C'est une toute autre ambiance. Le petit pervers de l'intérieur annonçait hier matin le lancement d'une nouvelle opération PlaceNet XXL à Toulouse, Strasbourg et Nantes. Alors là où c'est plus drôle que les autres fois, bien que les autres fois c'était pas très drôle, c'est que ce coup-là, il a annoncé la nouvelle un tout petit peu trop tôt et il a ainsi saboté le lancement de la PlaceNet XXL à Strasbourg. Les trafiquants étant au courant avant le lancement de l'opération, qui devait, alors si j'ai bien compris, débuter un jour plus tard. Les détails sont pas très bons. Alors, attention, Ça, c'est les députés de la région d'opposition qui ont commencé à sortir l'affaire. Du coup, le préfet a dit « Mais non, c'est pas du tout ça, vous inquiétez pas, c'était prévu comme ça, il n'y a pas de problème. » Il se trouve que, est-ce qu'on peut faire confiance à la préfecture quand il s'agit de couvrir le ministère de l'Intérieur ? Peut-être qu'il y aurait un petit conflit d'intérêts. En tout cas, le secrétaire départemental adjoint d'unité SG Police FO, qu'on peut pas soupçonner de laxisme, hein. C'est les mêmes que ils sont un peu moins laxistes qu'Alliance, mais un peu plus laxistes qu'Alliance, mais bon, c'est quand même pas fameux. Ils ont déclaré, les collègues ont été dégoûtés. Je vous fais pas l'accent policier parce que je suis nul en accent, mais
ben, policier, c'est pas un accent.
Si, si, ils ont un accent dégueulasse. Tu les entends, là, ils parlent tous pas. Enfin bon, les collègues ont été dégoûtés de cette annonce car ça a pu ruiner le travail qu'ils menaient depuis des semaines. Il ajoutait même que il y a un type qui, donc, là je sais pas trop s'il faut le croire parce que ça paraît un peu gros, mais enfin bon, il y a un type qui attendait tranquillement la police à 6h du matin chez lui et qui, donc, avant que les mecs aient eu le temps de défoncer la porte, leur a gentiment ouvert pour éviter qu'il puisse lui défoncer la porte. Voilà, alors je suppose que dans la journée ou demain, on va commencer à voir fleurir sur les réseaux sociaux des vidéos à la con sur les sites des différentes préfectures concernées, donc celle de Nantes, enfin bon, vous voyez, Nantes, Strasbourg et Metz, je crois, je vous ai dit, je sais plus, j'ai déjà
pas dit Toulouse aussi.
Toulouse, c'est ça, pourquoi je voulais mettre à Metz. On va sûrement voir fleurir les annonces, des tweets nous annonçant, donc l'autre fois c'était 22 grammes de drogue saisie, il n'y a même pas de quoi vendre, je sais pas, 10 personnes, et du coup c'était ça les saisies qui ont été faites, et faut imaginer qu'on ait à peu près quelque chose d'aussi efficace qui va se reproduire encore et encore.
Jusqu'à que dans un cannabis social club allemand, on peut en acheter plus que ça.
Alors, un individu allemand normal peut acheter plus par jour que ce qu'ils ont saisi avec leurs affaires anti-trafic. Globalement, de toute façon, on sait que ce genre de truc, c'est plus de la com qu'autre chose. Un des magistrats marseillais, qui est la ville où ces trucs ont a commencé à un peu gueuler là-dessus en disant « Mais en fait, vous nous bloquez des moyens ». Pour ces opérations à la con, et en fait ça sert à rien. On en avait parlé, je crois, la semaine dernière, le patron de la Provence qui s'était fait virer, enfin qui s'était fait limoger pendant une petite journée parce que ils ont fait un
article. Je crois qu'on n'avait pas parlé, mais...
Ah, on l'a pas fait finalement.
Non, bah, voilà. vous avez dû en entendre parler.
Bah voilà, en gros, il y a eu ça. Et grosso modo, là par exemple, sur une ville comme Strasbourg, il disait qu'il mobilisait quand même 250 types sur une affaire comme ça, donc 250 personnes qui sont pas en train de tabasser des gens au hasard dans la rue, bonne nouvelle, mais pas non plus en train de prendre des plaintes de personnes qui auraient été, agressées sexuellement par un type qui leur propose des logements sociaux en échange de faveurs sexuelles, par exemple, au hasard. Voilà, et du coup, c'était un peu tout ce qu'on avait à dire pour ce soir.
Eh ouais, eh ben voilà.
Quelqu'un a un agenda, à part qu'il y a une manif.
Samedi, 15h, terreau.
Ok.
Gaza.
Non, pas d'agenda, plus personne. Eh ben c'est la seule chose qu'on fera.
Regardez Rébellion pour voir l'agenda. Si, si, il y a des. Ou alors peut-être.
Allez, vas-y, tu l'as ou non ?
Alors attendez.
Attendez.
Je l'ai. Oui, je l'ai, mais il va falloir broder quelques secondes. Alors. Alors si, si, alors on peut dire que déjà demain, il y a un. Il y a un petit déj contre l'expulsion de l'ECG et de l'annexe. À 8h, rendez-vous devant la mairie du 7e pour exiger un relogement de tous les habitants, avec du coup donc un petit déj. Voilà, c'est tout.
Ah bah tu nous dis si on t'ennuie.
Ah bah voilà.
C'est tout, bah il y avait un truc. Non, après c'est tout, regardez Rébellion quoi.
Ok, bon allez zou. Ciao à la semaine prochaine, sauf moi.
Bah ciao à la semaine prochaine, sauf toi.
Ah si, bah je rajoute quelque chose. Hop, oh, tac,
j'ai ravalé mon générique.
Alors je peux quand même rajouter que le dimanche 14 avril, il y aura un concert de soutien à la Palestine au Grand Zéro. Voilà. C'est déjà pas mal.
Ça y est, c'est ton dernier mot.
Ok, non, bah je continue, alors ouais, si on me laisse la parole. Soirée de soutien à l'association IDIR Espoir et Solidarité, donc qui est le collectif contre le racisme et les violences d'État. Et du coup, et puis contre les morts en prison aussi, on peut dire. Du coup, il y aura pour soutenir cette association, ce vendredi, un couscous à prix libre à l'annexe de l'ECG, 27 rue Salomon-Rénac, dans le 7e.
C'est ton dernier mot.
Ça y est, c'est tout.
C'est ton dernier mot, allez, c'est parti.
Radio Canu, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Belle des radios.